Rebonjour mes amis, toujours Clotilde Sey.
Ce sont les voies de service qui commencent maintenant, plutôt j'aurais dû dire c'est l'émission
les voies de service avant d'accueillir ma prochaine
Clotilde Sey au micro jusqu'à 11h45 avec
qui
vous
s'appelle Gérard Cédric et qui
la
parlera
place
entre autres
à Christian Campagna,
oui, pour
le bulletin du handicap et mes jeunes choses
pas seul jusque là,
je l'attends d'ici quelques
bon
minutes,
nombre de collaborateurs
qui vont venir, qui
je n'ai pas évoqué
dans les journaux ce matin,
c'est le
pour
journal
vous offrir
de Montréal.
Le meilleur.
Alors,
regardons ben, d'abord trouver dans les quotidiens, mais aussi
va
sur le web.
Dire la une du journal de Montréal. Je vous reviens avec ça dans quelques secondes.
Alors, dans cette première demi-heure, évidemment, il sera question des élections. Et
alors,
de
à la une de la, du journal ce matin,
pour les élections.
De, on parle d'argent.
19 octobre prochain,
on demande, entre autres,
il y aura un éditorial
de Montréal
sur le logement qui ne semble pas faire l'affaire
à qui, je ne sais pas,
la facture
de ce monde,
personne
plutôt
ne peut
des grands du Québec,
puisqu'il n'était pas.
De quoi il s'agit, en page 5.
Et puis, on parle aussi d'un bonhomme qui a fait la grosse
sur notamment l'argent des autres,
mais là,
à Montréal,
est en train.
On lui a mis la main
hier à cette même antenne.
Et puis le plaidoyer pour une plus grande justice sociale
vont gagner contre
une dizaine de personnalités québécoises et canadiennes qui signent
grâce à l'argent
ciblant l'inaction des politiciens.
Ça fait la une du
Devoir ce matin et je vais vous lire également ce qui s'écrit sur le sujet.
Alors en ce qui concerne,
il y aura aussi le témoignage d'une jeune Syrienne qui a vécu
$4,600 par semaine.
On parlera d'un nombre important,
on évoquera plutôt l'increvable
Stéphane
Dion.
Et puis
Tom,
qui ont été faits à l'hôpital général juif entre 2008
que
et 2012
Tom,
par une entreprise de construction
pense la même chose
visée par l'IPAC.
Et puis aussi,
et le bureau d'enquête du journal a obtenu
17 copies de ces factures,
au milieu de laquelle
je recevrai Christian Campagna avec
pour la
sa période
virale.
Mais pour
l'instant, on va évoquer l'éphémérie
du jour dans
quelques
entreprise,
dont
nous sommes le mardi 15
septembre,
par l'enquête
de l'IPAC
sur un vaste réseau de corruption qui aurait duré plusieurs années à l'hôpital général juif.
Des petits trésors.
Il s'agit de deux cadres ont été congédiés, dont Ciel Berdougo qui a signé toutes les factures obtenues par le bureau d'enquête. Bonjour Mathieu.
Bonjour Clotilde.
Alors ce matin, 15 septembre, moi quand j'étais petite, 15 septembre, ça voulait dire la rentrée, parce que chez nous on rentre à la mi-septembre.
Et puis hier, je vous en parlais, ça faisait la une du journal de Montréal,
les vedettes contre
Prince Harry est né
sur le plateau Mont-Royal.
Ah oui, le petit mignon, exactement.
Le petit mignon là, qui chante de blanc de tous les mois,
ça faisait pas plaisir à papa maman, que c'était pas facile de gouverner la France, un pays où il y avait...
Il y a aussi Oliver Stone qui est né en 1946,
Jean Renoir.
En 1894, Agatha Christie,
avec le nombre de vedettes et les
incroyables
dimensionnés.
En gros, nous ont quitté le piano, je veux dire, le claviériste de Pink Floyd.
Comment vous appelez
Richard Wright.
Elle est excellente, ça aurait été dommage.
Johnny Ramone.
Que vous n'ouvriez pas votre micro qui m'était
décédé.
Alors, aujourd'hui, les vedettes en question répliquent.
Et aussi est décédé l'éléphant Jumbo.
J'imagine
que vous connaissez l'expression Jumbo,
Jazz
Jumbo.
Il
est décédé
pas lourd,
en 1885, tué par un train.
C'est l'ego de Ferrandez, le problème.
Ben voyons donc.
Et je connais les résidents du plateau.
Ah oui, Jumbo, le plus gros éléphant. En fait, on l'appelle même le premier obèse américain.
Guy Nantel,
il n'était pas américain,
Ferrandez traite les artistes de gros égaux.
Ah, ouais.
C'est comme si Homer Simpson traitait quelqu'un d'autre
de Londres, je pense, jusqu'aux États-Unis.
Parce que moi, je connaissais Jumbo, l'éléphant avec les grands
dents. Vous entendez, c'est le rire de Gérard Cyr qui est déjà
arrivé en studio. L'expression Jumbo pour les grands formats, les gros formats, ça vient de cet éléphant.
Je pensais que vous me parliez de la...
Justicier masqué aussi, apparemment vivent peut-être
c'est tout pour
juste
aujourd'hui.
Un des deux.
C'est une excellente émission, mon ami.
C'est difficile de faire plus pathétique. Ferrandez, c'est la faute de Guy Lepage et Michel Rivard si les commerces ferment. Ah oui, sûrement pas. Et puis Toby Bureau Huot qui dit bon, je dois être un bourgeois parce que j'ai quitté le plateau en lui faisant un doigt d'honneur et je ne m'en porte que mieux. Voilà en gros comment les vedettes québécoises répondent à M. Ferrandez ce matin.
Alors on commence ce matin avec la une du Devoir. Québec donne des armes aux intégristes selon Fatima Ouda Pépin. Logement insalubre et inabordable, Montréal veut les pleins pouvoirs.
Hier matin, sur les ondes de Radio-Canada,
ainsi que ce
Gravel
titre d'ailleurs, une subvention non sollicitée
Laboum,
pour un congrès non désiré. Ottawa octroie $75,000 pour un congrès sur l'exportation du livre.
Gravel, il en revenait
et
pas.
Et la personne n'y comprend rien parce que quand on sait que M. Harper a refusé qu'on soit au Salon du Livre de Francfort, qui est un immense salon international qui nous aurait permis de peut-être des partenariats dans le domaine de l'édition.
Monsieur Labo,
alors là, tout d'un coup, il y a ce 75 000 $ comme ça qui tombe du ciel,
et
que personne n'avait demandé.
Du journal de
et puis
Montréal.
Un surplus surprise qui tombe à point pour Harper. Il le promettait depuis des années, ce surplus. Eh bien, son gouvernement a retrouvé l'équilibre budgétaire l'an dernier en affichant un surplus un an plus tôt que prévu. Le pari d'Angela Merkel, ça fait également la une, la décision de l'Allemagne de suspendre les accords de Schengen est une façon de forcer les pays réfractaires comme la Hongrie à faire face à leurs responsabilités devant l'arrivée massive des migrants. Et puis il y a la photo de tous ces signataires d'un manifeste ciblant l'inaction des politiciens.
Se rendre compte que Québec est un stade, mais
tous ces gens que l'on voit photographier pour ce sujet. On reconnaît Naomi Klein, Denis Villeneuve, Léonard Cohen, Yann Martel, Régine Chassagne, Gabriel Nadeau-Dubois, David Soujou qui, entre autres, Philippe Falardeau et bien d'autres et bien d'autres. Je vais revenir tout de suite sur ce sujet et je vous lirai aux alentours de 11h30 par là.
Le nouveau morning de Radio-Canada a-t-il déjà vu
l'ensemble de ce manifeste en train de tomber en morceaux, signé par tous ces gens-là?
Une boîte en tôle ondulée, on aurait dit un incinérateur à déchets ou l'entrepôt frigorifié d'une banque alimentaire. Québec n'aurait pas droit à un amphithéâtre digne de ce nom pour accueillir, oui, du hockey, mais aussi des spectacles.
Alors donc, puis, un regroupement de personnalités publiques canadiennes de différents horizons lance ce mardi un vibrant plaidoyer en faveur d'une véritable transition énergétique axée sur une plus grande justice sociale.
Le projet qui a connu le plus gros dépassement de budget,
un geste qui se veut une réponse à l'inaction climatique de la classe politique favorable à l'expansion de l'industrie des énergies fossiles et prompte à imposer des mesures d'austérité. Particulièrement nuisible.
Alors, entre autres, le texte dit, à Montréal,
nous partons
correct,
du constat que le Canada et le Québec traversent aujourd'hui
tout,
la crise la plus grave de leur histoire récente.
Expose
d'entre eux le manifeste intitulé
la République indépendante
Un grand bond vers l'avant qui sera lancé ce mardi à Toronto et que le Devoir publie en exclusivité dans les pages ID, je vous le disais, et je vais donc vous lire ce manifeste un peu plus tard à l'émission Restez des nôtres.
Qu'est-ce qu'ils en connaissent?
La Commission de vérité et réconciliation a permis de prendre acte d'épisodes révoltants de notre passé proche. La pauvreté et les inégalités qui s'accentuent creusent une cicatrice qui défigure notre présent et la performance canadienne dans le dossier des changements climatiques est un véritable crime contre l'humanité.
Et alors, sur le même sujet, il y a Y.
Alors, ce constat particulièrement
ce matin,
sévère de la situation écrit Alexandre Shields de la situation de la société canadienne et québécoise est cautionné, je me disais, par plusieurs personnalités.
Il y a M. Guy Lepage,
je pourrais en rajouter d'autres, comme par exemple Donald Sutherland ou Neil Young, aussi, ainsi que le philosophe Charles Taylor.
Il passe tellement pas la porte qu'il a bousillé la porte. Ça veut dire qu'il y a un gros trou aussi large que sa tête dans la porte.
Juste en dessous, Madame José Legault s'exprime. Elle aussi, d'ailleurs, elle faisait partie de ces gens qui insultaient hier Monsieur Fernandez. Pas insulté, non. Le mot est fort. Qui s'insurgeait contre les décisions qui sont prises par le maire du plateau Mont-Royal. Mais là, pour l'instant, elle est sur un autre sujet.
Logement social. Isabelle Paré
écrit avec Robert Dutrisac, indigné par l'état déplorable de salubrité et d'abordabilité des logements à Montréal dévoilé par la direction de la santé. Public, la DSP de Montréal, le maire Denis Coderre soutient que la solution passe par l'adoption par Québec d'une loi
après
sur
une
la gouvernance et l'octroi de pouvoir
sur la crise
longtemps réclamé par
l'ex-premier ministre
pour gérer elle-même les problématiques sociales au chef sur son territoire. Lors du forum montréalais sur le logement et la santé, où les ministres québécois et fédéraux accusaient Tony Blair de risquer par leur absence, le maire Coderre a repris la règle référendaire
le flambeau de la nécessité d'une loi accordant à Montréal le statut
à l'encontre de la loi dite sur la clarté adoptée en juin 2000 sur la situation désastreuse du logement. On en parlait hier.
Je me souviens
cette fois, rappelons-le, dit Mme Legault,
on dit que 30% des gens qui vivent
cette
à Montréal
loi, pardon,
vivent dans
rappelons-le,
des
accorde au gouvernement fédéral le pouvoir de refuser
insalubre,
toute négociation
enfin bon,
avec le Québec.
Mauvais pour la santé,
infesté
de champignons, quand
et la hauteur
ce n'est pas
d'un vote
de
majoritaire pour
alors,
sur ce sujet, il y a aujourd'hui un éditorial de Mme José Boileau sur ces ministres qui
clair. N'ont pas jugé
d'un
bon
arbitraire
de se rendre
absolu,
à ce,
aux
à ce forum montréalais.
Et
Madame Boileau qui dit, attendez, comment ça,
c'est le Royaume-Uni,
c'est pas leur affaire, le logement. Sur
ni
une
Québec,
claire,
ni Ottawa n'ont
avec
plus bon
de déléguer
un représentant
sur le logement et la santé qui s'est tenu lundi à Montréal. C'est une absence gênante, dit-elle.
Au Canada anglais, la loi sur la clarté
des têtes paroles des gouvernements actuels, insalubrité, pauvreté, difficulté.
Il en a donc fallu le courage au NPD
croire que cela ne
révèle
pas,
adopter en
ne relève pas des vraies
déclarations
et pourtant tout basé sur le fédéralisme asymétrique et le respect montréalais.
Il faudrait reprendre une à une toutes les données dévoilées
cette
par la direction de la santé publique
Thomas
de Montréal dans
le rapport exhaustif qu'elle vient de consacrer
au
logement
Québec en juin dernier.
Punaise de lit au
pour Justin Trudeau,
du nombre de plus en plus grand de ménages qui consacrent plus de la moitié de leur revenu jusqu'à 80% dans certains cas pour se loger en allant jusqu'au manque de logements sociaux.
Le vote francophone au Québec lui échappant de toute façon, dit Madame Boileau,
le
chef libéral,
le constat du directeur de la santé publique, le docteur Richard Massé,
sur la fibre fédéraliste de
le logement est devenu un enjeu de premier plan à Montréal
en
et est un élément structurant
en bonne partie
dans
le choix
la vie
du prochain
des
gouvernement.
Gens. La présence même du maire Coderre au forum témoignait d'une nouvelle conscience quant à l'importance structurante d'un logement accessible et de qualité. À l'entendre interpeller les candidats aux élections fédérales pour réclamer de nouveaux logements sociaux et de l'argent pour l'entretien et la rénovation de ceux existants, on aurait pu croire que le Frappru, cet acteur majeur des luttes pour le logement social au Québec, venait de se trouver un nouveau porte-parole. Il a raison, le maire, dit Madame Boileau. Ce n'est plus de militantisme social.
Avant de me tourner vers mon ami Gérard Cyr, une petite nouvelle insolite.
Alors Ottawa
dans
doit
le
mieux faire.
Journal
les conservateurs
de Montréal,
ayant été particulièrement pitoyables
ce matin,
dans ce domaine,
qu'il y a
le NPD et le PLC
que
ont au moins des propositions, mais Québec, qui a réduit de moitié sa prévision de construction annuelle de logements sociaux
qui s'appelle
dans le dernier budget l'État, doit aussi rendre des comptes. Elle conclut en disant l'austérité coûte trop cher pour être une réponse.
Eh bien, un squelette à moitié pendu sous les racines. Ce qui pourrait être une scène de crime datant de l'époque médiévale.
On aurait pu. Seulement la portion supérieure du squelette était attachée aux racines, tandis
que
les gens étaient
élections,
enterrés dans un trou
plutôt
une la campagne électorale en ce qui concerne le devoir. Quelques gros titres, un surplus, surprise qui tombe à point pour Harper. Le chef conservateur est garanti un second excédent budgétaire cette année. Vous savez qu'il le promettait depuis des années, nous rappelle Mme Pastel. Et bien, c'est maintenant une chose faite. Et là, il a tout d'un coup le grand sourire, M. Stephen Harper. L'heure juste,
parlant
les rois de la brique et du mortier. En chiffres absolus, on peut dire que le gouvernement conservateur a dépensé plus que tout autre gouvernement avant lui en matière
d'infrastructures,
dit-on en légende.
Parce que il me fait des signes, l'autre parfois, là, il est vraiment
en train de s'affairer sur un chantier. Alors, ce qu'ils ont dit, les uns et les autres, le chef libéral Justin Trudeau, nous allons faire le plus important nouvel investissement dans les infrastructures de l'histoire du Canada. M. Harper a dit, nous allons poursuivre le plan d'investissement dans les infrastructures le plus long, le plus vaste, le plus ambitieux qui ait jamais mené un gouvernement
bonjour, Gérard,
canadien dans l'histoire
c'est
de ce pays.
Ça va bien.
Alors,
c'est
les
votre
faits,
première participation.
M. Trudeau promet de dépenser près de 60 milliards de plus que
juste
le gouvernement conservateur sur une période de 10 ans. Le gouvernement de M. Harper, lui, rappelle
Gérard,
qu'il a fait des investissements
vous
et en a annoncé d'autres dans ses derniers budgets. Il totalise environ 80 milliards de dollars de 2007 à 2020. 24,
vous aimez la
dont
ville,
un peu plus
aimez,
de 60 milliards qui restent à dépenser.
Venir,
en chiffre absolu, on peut dire que le gouvernement conservateur
semaine,
de M. Harper
pas forcément
a effectivement dépensé plus que tout autre gouvernement
partout,
avant lui.
Mais
et si un gouvernement libéral en remet, on nagera encore dans les records.
Sujet qui, bon, c'est héritage...
C'est héritage Montréal et non pas Canada.
Ah pardon, excusez-moi. Parce que c'est finalement quelque chose qu'on connaît mal. On sait mal... ce qui se cache, ce que regroupe ce terme-là, et vous êtes venu pour nous en parler.
Oui. Donc, Héritage Montréal, c'est un organisme à but non lucratif, fondé en 1975 par
et puis,
Philippe
juste
Lambert,
avant de me tourner vers Christiane Campagnan, qui est arrivé pour sa nouvelle virale, juste quelques mots, parce que c'est un témoignage. C'est que parfois, on a beau savoir
donc,
que, par exemple, les réfugiés syriens sont des gens qui souffrent, sont des gens dont les maisons ont souvent été détruites par le nid. Là, il y a par exemple la photo de cette jeune femme, une très belle jeune fille, qui est une réfugiée au Canada, et elle a été soumise, cette femme-là,
Oui. Et c'est les huit choisis par les gens qui sont abonnés, qui sont membres.
On m'a présenté à des gens qui partageaient mes idées politiques sur le campus et nous avons organisé des manifestations à Damas, a-t-elle relaté. J'étais dans ces manifestations, j'ai entendu des coups de feu, j'ai couru, j'aurais pu être abattue. Du coup, elle s'est fait arrêter. Ils l'ont roué de coups de pied et frappé dans un bureau. Ils l'ont ensuite menotté. Ils lui ont bandé les yeux pour l'amener au patron de l'organisation.
Alors comment ça se passe?
Il lui avait demandé pourquoi elle avait distribué
ses feuillets.
Il lui a finalement infligé plusieurs chocs électriques. Ce n'était pas une question, ce n'est pas une question de donner la bonne réponse. C'était pour m'apprendre une leçon, a-t-elle expliqué. Aujourd'hui, cette femme habite le Canada. Elle est venue rejoindre un cousin qui était venu la visiter.
Aux personnes non voyantes aussi, éventuellement.
Oui, parce que c'est intéressant de rejoindre.
C'est ce qu'elle a fait. Elle est déjà très intéressante. Elle est résidente permanente et elle espère bientôt obtenir sa citoyenneté.
D'urbanisme et naturellement d'histoire, ça vient avec. Et on touche à l'art public naturellement parce qu'à certains endroits, il y a une concentration d'art public, monuments ou autres. Donc, c'est très, très intéressant cette visite-là. Donc, samedi, c'est le 19, le thème, c'est la petite patrie et le Maryland. Et dimanche, le 20,
Bonjour Christian, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Alors ce matin, qu'est-ce qui arrive un petit peu sur la toile? De quoi on jase?
Hier en après-midi et en soirée, les médias sociaux ont été enflammés par deux chansons, en fait.
Oui, mais on parle plutôt... Je pourrais appeler ma chronique « Vert d'oreille » ou « Le ridicule ne tue pas ». C'est plutôt vraiment axé sur les
Elle mettra vedette Maxime Bernier et si on a le temps, Natacha Saint-Pierre.
Pas mal ça.
Alors, Maxime Bernier a hier lancé son nouveau slogan électoral sur les ondes radiophoniques. Et Vincent Marissal l'a présenté comme
celui de dire, ce n'est pas une blague. Vous pouvez aller sur le site d'Héritage Montréal, d'ailleurs.
Si Mathieu veut bien, on pourra l'entendre.
Oh, il ne veut pas?
Informations dont vous avez besoin pour ça. Ça coûte, pour un membre d'Héritage Montréal, ça coûte 10 $. Pour un étudiant ou un aîné, 65 ans et plus. Ça, c'est 12 $ la visite. Et pour vous, comme moi, les petites dames, c'est 15 $. Il y a aussi un forfait 4 visites. Avec ça, on économise 15%. Donc, si vous avez un coup.
Nicolas Boisvert a écrit Breaking News. Il paraît qu'un sondage récent révèle que Maxime Bernier perd des votes chez les éditeurs qui ont des oreilles.
Sauver déjà 15%.
Et Mathieu Moreau a écrit Le jingle de Maxime Bernier me donne une furieuse envie de faire mon épicerie chez Steinberg. Parce que tout le monde a bien trouvé que ça ressemblait à des jingles des années 70-80. Et moi, celui auquel ça m'a fait penser tout de suite, c'est le bon vieux jingle du métro de Montréal.
Alors, je ne sais pas, avez-vous quelques exemples à nous citer sur le plan historique?
On va peut-être entendre qu'est-ce qu'on...
Mais le voici. Il y a beaucoup de quartiers de Montréal, surtout ceux du... Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le Montréal, c'était ça. Montréal, à l'époque, c'était ça.
Absolument.
La
chanson thème de l'Expo en 67, ça ressemble à ça aussi.
On est carrément dans ça. Ce qui fait dire à Mathieu Charlebois, une pub radio des années 70 et des idées des années 1940. Maxime Bernier, un candidat pour aujourd'hui.
C'est pas le contraire qui est arrivé. C'est qu'on a,
et
a
l'autre
fait
personne qui a fait la controversie même, c'est la chanteuse Natacha Saint-Pierre, chanteuse acadienne maintenant en France, qui fait une reprise de la chanson Les Acadiens de Michel Fugain, qui déjà, véhiculait son lot de clichés.
Comme un petit peu aujourd'hui. Comme un développe autour des routes et des hôtels.
Et voilà.
Moi, c'est mon époque.
Et voilà. Sauf que dans le vidéoclip, elle la joue amérindienne avec la coiffe de plume.
C'est très, très, très bien fait d'Héritage Montréal. Il y a un truc, quand on va en bas, à la page d'accueil, on va en bas, à droite, il y a un lien pour un truc qui s'appelle Montréal en quartier.
Ah, on va véhiculer sur la culture
et puis, on a une carte. Et on appuie à différents endroits sur la carte et on découvre des quartiers. Et donc,
on découvre,
par exemple, l'histoire du quartier,
à une heure
les
de
bâtiments,
Paris.
Les espaces publics, l'art public.
Parce que c'est le cas, ça a vraiment été tourné en France. Relatif.
On a aussi un onglet juste pour des ponts.
En Acadie, on n'est pas...
Par exemple, le pont à Antique, disons.
Bon, déjà, cette chanson-là,
l'histoire. Et puis, le concept, etc.
C'est sûr que nous, ça nous fait rire. Il doit y avoir des dents qui grincent quelque part.
soit par exemple au Parc de la Fontaine.
Exactement, donc Radio-Canada,
et puis là, on a des images. Et on a une voix off.
On titrait. Un nouveau clip de Natacha Saint-Pierre ridiculisé en Acadie. Elle a été défendue par Edith Butler.
C'est lié à l'architecture, en fait. Il y a l'urbanisme beaucoup.
Et qu'elle n'a pas honte. Et que la partie cliché devait être la faute de Sony.
Sur le site, on a un autre.
Edith a participé à son album.
Mais il y a un monsieur qui dit,
j'ai honte. Comment peut-elle
le patrimoine de Montréal.
Mieux que ça de notre nation. C'est tout en un mot,
calendrier du patrimoine de Montréal.com. Et là, on a des suggestions de visite.
Parce que on rit en plus, je suis contente parce qu'on rit des Français quand ils pensent encore que les ours dorment.
Pour en revenir
à
la vocation
d'Héritage Montréal, et qu'il y a encore des Indiens qui vivent dans des tipis,
ils sont là pour promouvoir
et protéger le patrimoine bâti. C'est qu'en fait, c'est une chanteuse établie en France maintenant.
En général, c'est le patrimoine bâti, mais il y a beaucoup d'autres choses.
Au lieu de contribuer à combattre
veiller au grain quand il y a des gros projets qui nous tombent dessus.
Mais comme en ce moment.
En ce moment, justement ce matin dans la presse, Louis-Samuel Perron,
ça s'appelle « À la rescousse du village des tanneries ». Oui, c'est ça. On met là,
ils veulent raser des vestiges des tanneries de Saint-Henri.
Pour
se rappeler que Saint-Henri, en fait, existe parce qu'il y avait des tanneries tout le long.
C'est ça.
Et même que la première paroisse de Saint-Henri s'appelait Saint-Henri des tanneries.
Oui, c'est ça. Oui.
Donc, ils sont là pour protéger et pour aussi ouvrir les yeux. Et,
Alors, est-ce qu'ils vont être capables? Parce que là, on a vraiment l'impression que le Mercader, il a dit qu'il
la fierté de Québec, Philippe
détruit,
Quentin,
quoi,
qui nous dit que l'enthousiasme suscité à Québec par le centre
il y a le directeur des politiques chez Héritage Montréal,
qui s'appelle Dino
Bombaro.
Le chroniqueur rappelle que Montréal aussi a été fort, très fort, avec l'ouverture de la demeure du Canadien.
Parce qu'il y a des sujets dont j'aimerais bien qu'on reparle, mais là, on va manquer d'un petit peu de temps. Il faut que j'aille un petit peu à l'international. Mais en tout cas, j'ai bien hâte avec vous, Gérard Cyr, entre autres, après son départ,
d'évoquer la destruction
un médecin radié
du patrimoine.
Je pense à la maison Red Park. Je pense à
ce
qu'ils veulent faire avec la maison Red Park, tout ça. En tout cas, donc, j'aimerais vous entendre à un moment donné sur ces sujets-là. Donc, le mardi, c'est un rendez-vous.
Oui,
merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Nous, on part
et puis Vincent Marissal signe une chronique qui s'intitule L'increvable Stéphane Dion. Je vais vous en lire quelques extraits. Il y a ces images de désolation totale. Nous sommes dans le village de Middletown, hier, dans le nord de la Californie. Vous savez que les incendies font des ravages terribles en Californie. 12 grands feux ravageaient encore hier la Californie.
Oui, on part à l'international
à la plus grande vitesse jamais observée en 30 ans, selon le directeur des services d'urgence,
notamment
l'État.
Dans le voyait, devoir, entre autres, des pompiers.
On parle
complètement
d'Angela Merkel.
Puis à un moment donné,
bon, vous savez que maintenant, après avoir
ils ont laissé faire, ils ne pouvaient
plus rien faire. Tout d'un coup, elle se retrouve un
tellement
peu dans
l'eau chaude, tellement
après avoir ouvert les frontières.
Alors, et puis il y a ce,
ça fait plus l'affaire. Le plateau Mont-Royal est à l'honneur
dans
la
presse en ce moment. On nous présente une terrasse qui a été démolie pour une erreur
au niveau de cette crise migratoire que les 28 membres de l'UE réunis lundi à Bruxelles. Et c'est dans
le
devoir,
petit clin d'œil de Stéphane
Laporte,
avant
sur la répartition
que j'aille voir ce que Vincent Marissal a à nous dire au sujet
pour faire face à cet
afflux
de
demandeurs
du plateau
songent
à migrer en Allemagne.
Indiqué lundi soir, la présidence luxembourgeoise. Une grande majorité d'États se sont engagés sur le principe d'une relocalisation des 120 000 réfugiés, mais tout le monde n'est pas pour l'instant à bord, a reconnu le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères qui s'appelle Jean Hasselborn, qui a présidé lundi un conseil extraordinaire des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu l'accord que nous voulions.
Alors,
sur
il
ce
a été
point,
tout, tout surpris,
notre ami Vincent Marissal, en rencontrant le chroniqueur
de presse commune à l'issue de
politique, en disant
vraiment
à chaque fois que
enflammé,
je le retrouve
entre
les États,
qui est ce bonhomme détendu,
sujet
souriant,
un excellent papier
qui est ici en face de moi,
Gouda,
comme ça lui est arrivé assez récemment, pas très loin
dans la presse,
dans une pizzeria.
Monsieur Stéphane Dion tapait maladroitement sur son BlackBerry et il s'excusait.
Angela Merkel,
et puis là, une fois qu'il a eu fini, il a dit, bon, ben voilà, c'est fait. C'est un ami qui m'a demandé d'aller jouer au tennis ce soir. J'ai refusé parce que nous sommes en campagne, mais finalement, j'y ai pensé. Mais pourquoi ne pas aller jouer et puis aller manger à la cage au sport, serrer quelques mains et regarder la demi-finale du US Open? Alors voilà, et Marissal qui dit, il avait l'air satisfait d'un gamin qui vient de trouver la combine pour faire ses devoirs tout en sortant jouer dans la ruelle avec les copains. Il faut dire que la présente campagne est moins difficile que celle de 2004 et de 2006, dit Marissa, assombrie par les commandites. Moins difficile aussi que 2008, alors que M. Dion, et oui, était chef libéral, et moins qu'en 2011, avec un Michael Ignatieff qui passait mal dans l'électorat. Et puis, la longueur inhabituelle de la campagne sert le parti libéral, affirme M. Dion. Ça nous aide, parce qu'avec les libéraux, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais noir ou blanc, comme nos adversaires qui font campagne sur des slogans, comme M. Mulcair, qui promet 1 million de places en garderie, même si son plan ne tient
voilà,
pas.
Voilà, j'ai retrouvé
nos positions
ce papier
d'Agnès Gruda
que je tenais à
expliquer, mais cette
ce matin, bien sûr,
nous
que c'est encore la crise des...
La longue campagne
que les
permet aussi de dissiper
les doutes
des électeurs envers Justin Trudeau, malmené par les publicités négatives
qui retient l'attention à l'international.
Les publicités négatives ont fonctionné, dit-il.
Bien des gens trouvent Justin trop jeune ou pas prêt.
Ils
sont
surpris. Ils sont surpris quand on leur dit que Justin
mais donc Agnès Gruda, qui nous parle ce matin dans la presse de la désunion
on lui demande aussi est-ce qu'il a été blessé, est-ce qu'il garde un souvenir
qui s'écarte laissant passer des dizaines de défaites en 2000 de la terre en route vers les
Dorados blessé par des attaques parce qu'elles ont marché
avec des ballons
il ne
et
faut
des
pas sous-estimer les conservateurs
mais c'est son maître dans
la manière établie hier le contrôle
négative.
De ses frontières
alors
suivi
voilà
par
Stéphane Dion
pompier
la République
qui est reparti en campagne très serein temporairement traqué
avec le principe de la libre circulation
Cassan de 1997
le père de la loi sur
par les barbelés des années 2000
que terminait la Hongrie
bien on fait place à un vétéran
avec
lui-même qui se permet
la route des migrants
bref
le pays
le
meilleur
plan de lutte au changement climatique
en train de se
barricader avec enthousiasme avant de s'envisager
même de tirer
sur ceux
en fait,
qui oseraient
je veux dire le deuxième meilleur plan
pendant ce temps
après
celui
qui était
mon
le plus ouvert soit l'Allemagne a décidé de prendre contrôle du trafic quitte à suspendre un des plus grands acquis de l'Union européenne la liberté de mouvement finalement l'illusion qu'un seul pays pouvait absorber sans restriction et sans conséquence tous les rescapés de la guerre syrienne n'était que ça
Tom et Thomas, écrit Liliane Gagnon, nous sommes toujours dans la presse.
La
Tom dit-il
sur
la
le
même
terrain
chose que
Thomas.
Deux jours de portes
pas
ouvertes.
Toujours.
Prenez la question de l'oeil du transcanadien. Quand Tom Mulcair s'adresse au Canada anglais, il voit le
pipeline
comme un
gap
qui
de
développement économique et une solution de rechange
en
souhaitable au transport par rail.
Ce qui a entraîné
et quand Thomas parle français au Québec,
le projet d'oléoduc devient tout à coup problématique.
Il ajoute un
gros
bémol.
Alors les critiques s'élèvent au sein même de la coalition
des normes
environnementales
sur le terrain comme
le projet pourrait ne pas avoir
le
feu vert d'un gouvernement néo-démocrate.
La semaine dernière,
les Allemands
prenez aussi la question référendaire.
Se demandent
Mulcair,
si leur
quand
pays
il parle
au Québec,
aime bien évoquer la déclaration de Sherbrooke
pour les
adoptée par le parti
si la
sous la direction
ne
de Jack Layton, laquelle
sur le
filet
social,
contrairement à l'avis de la Cour
le formidable
suprême
élan de solidarité pour les réfugiés,
une majorité de 50%
plus
une voix
suffirait à enclencher le processus de souveraineté.
Angela Merkel s'est retrouvée face à un
soin d'effacer du site
logistique.
Du parti
social
toute allusion
politique.
À cette position.
L'Allemagne
et l'autre jour, talonné de près par Peter
Mansbridge,
elle réfugie d'ici la fin
il a systématiquement refusé d'énoncer clairement la règle du 50 plus
qui ont conduit le pays
pour marteler une
bord
phrase
de la crise
de nerfs. Ceux
j'ai vu
qui
hier
gagnent,
des images à la télévision en provenance
le défi du NPD
et de
entre
était
auparavant de se débarrasser des vieux oripeaux radicaux du NPD fédéral de revenir à la prudence fiscale
lorsqu'il s'aperçoit
le NPD a même retiré l'étiquette socialiste de sa reconstitution.
Les attaques naïves du bloc n'ont fait que renforcer la nouvelle personnalité du NPD.
Mais c'est pas fameux comme tactique, conclut Lisiane.
Eh bien, bonjour à vous tous. C'est Kevin Breton qui prend la relève de la voix de Clotilde Seille pour quelques minutes. Si ce n'est que pour le temps de lui laisser respirer un peu, de prendre une pause, mais aussi de vous lire quelques textes qui ont retenu mon attention dans l'actualité sportive. En ce mardi 15 septembre, tout d'abord au soccer, il y a plusieurs absents de taille, notamment Drogba, Piatti et Bush, qui sont rentrés à Montréal de leur équipe de l'Impact. C'était à prévoir d'écrire Dave Lévesque dans le Journal de Montréal. Plusieurs joueurs de l'Impact ne seront pas en uniforme pour le match de demain contre les Earthquakes de San Jose. Donc les joueurs que j'ai nommés tantôt, mais aussi Ignacio Piatti et Marco Donaldeld, ainsi que Justin Mapp et Laurent Siman sont tous rentrés à Montréal dimanche. Dans le cas des quatre premiers, donc qui inclut aussi Drogba et Bush, on veut leur donner du repos pour qu'ils soient en forme contre la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo samedi. Quant à Simane, il est venu s'entraîner avec l'équipe quelques jours, mais comme il est suspendu, on lui donne aussi quelques jours de répit. Pour ce qui est de Justin Mapp, c'est par mesure préventive, puisqu'il s'est blessé à un pied contre le Galaxy samedi. Je voulais gérer les matchs, rapprocher de cette façon, et je voulais équilibrer les alignements pour avoir la meilleure chance de récolter des points, a expliqué Moro Biello, excusez-moi, j'ai de la misère tout d'un coup. Avec un calendrier très chargé, Moro Biello se devait de faire tourner son alignement. En effet, après ses deux matchs en Californie, l'Impact doit affronter la Nouvelle-Angleterre à domicile samedi et recevra ensuite Chicago mercredi prochain et DC United 3 jours plus tard. Il allait donc de soi d'accorder un repos à certains de ses rouages les plus importants. Il ne faut pas seulement penser au match de demain. On joue samedi, puis mercredi et encore samedi. La fatigue et les bobos s'accumulent. Maintenant, j'ai beaucoup de joueurs disponibles, alors je dois bien les utiliser, de poursuivre l'entraîneur. Dans le cas d'Evan Bush, l'entraîneur-chef fait d'une pierre deux coups. Il repose son partant et lui donne un bonbon à son second. À son second gardien, on comprendra, c'est pas précisé dans le texte. Cronberg à la maison. Eric Cronberg aura la chance d'amorcer la rencontre devant les siens. Lui, qui est originaire de Santa Clara, dans la vallée de Sonoma, à un peu moins de 2 heures au nord-ouest de San Jose. Cronberg a très bien fait lors des 2 matchs qu'il a joués. C'est un match important pour lui et je veux lui donner l'opportunité à certains joueurs de se démarquer. Sur le plan défensif, on risque de voir Eric Miller dans le 11 partant, que ce soit à gauche ou à droite. Finalement, à l'absence de Donaldel, Nigel Rio-Cocker pourrait retrouver sa place de milieu défensif. Le vétéran anglais a connu 2 très bonnes sorties comme arrière latéral droit où il dépannait en l'absence d'Ambroise Wingo. Excusez-moi, j'ai pas fait mes exercices de diction pour prononcer le nom de tous les joueurs de cette équipe très multiculturelle qui est celle de l'Impact de Montréal. On va quand même rester dans le même domaine pour vous lire rapidement la chronique de John Limniatis dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le titre, les aléas du calendrier. Après un match tout en couleurs contre le Fire de Chicago à Montréal, l'Impact s'est envolé pour un périple éreintant en Californie. Premier arrêt à Los Angeles où les choses se sont bien passées et de façon différente de la rencontre précédente. Contre ce qui est probablement la meilleure équipe de la MLS, le 11 montréalais a réussi à arracher un match nul de 0-0 à saveur de victoire. Contre la meilleure équipe offensive du circuit, l'exploit n'est pas à dédaigner. Avec ce point, le bleu-blanc-noir a accentué son avance au 6e rang de l'Association de l'Est et va tenter de compléter le travail contre les Earthquakes de San Jose demain. Encore une fois, Didier Drogba, même s'il n'a pas réussi à marquer, a montré à quel point il pouvait influencer positivement cette équipe. En fait, il a même montré qu'il est un élément indispensable. Certes, il faudra s'assurer de la garder en forme pour la suite des choses, mais plus l'Ivoirien jouera, plus du succès il aura. C'est aussi simple que ça. Au cours des 2 prochaines semaines, décrire John Limniatis, le calendrier de l'Impact sera chargé. Après les 2 matchs en Californie, il enchaînera 3 matchs à domicile en quelques 8 jours. Autrement dit, ce sera un gros test pour le personnel technique de l'Impact. Ce dernier n'aura d'autre choix que de faire tourner son effectif et de s'assurer que tous les joueurs mettent l'épaule à la roue. Certains joueurs plus âgés, comme Drogba, malgré le fait qu'il est parfaitement habitué aux longs déplacements, devront être ménagés. Tous ceux qui traînent des petites blessures feront aussi l'objet d'un suivi étroit. Ignacio Piatti, Justin Mapp et Marco Donaldel en tête de liste. En plus, avec Laurent Simon, encore suspendu pour le match à San Jose, les Victor Cabrera et Vandril Lefebvre devront s'assurer de garder leur standard élevé, comme ils l'ont fait contre le Galaxy. Bref, Moro Biello devra jouer à l'alchimiste en mélangeant du mieux qu'il peut les combinaisons au cours des prochaines rencontres. Heureusement, au cours de cette séquence, l'Impact pourra compter sur le retour au jeu de quelques blessés. Pour un, Assoun Camara semble sur le point de retrouver le terrain après une longue absence. Avec sa présence, l'Impact comptera sur une vraie profondeur en défense. Patrice Bernier pourra aussi faire souffler Marco Donaldel et Callum Malas lorsqu'il sera rétabli de sa blessure au talon. On peut aussi ajouter à la boîte à outils les joueurs qui reviennent de sélection nationale. On l'a vu samedi dernier, Joan Venegas semble pouvoir donner un coup de main dans le secteur offensif en combinaison avec Drogba. Et Ambroise Yongo devrait s'amuser dans un système où Biello souhaite que ses défenseurs latéraux soient plus engagés vers l'attaque. En somme, au personnel technique, à gérer cette mi-septembre chargée et ça commence demain contre les Earthquakes. On y va pour les 3 points en alignant ses meilleurs éléments ou en se concentrant sur les 3 prochains matchs à Montréal. À vous de dire. C'est la chronique de John Lemiatis dans le Journal de Montréal. Continue notre tour d'horizon de l'actualité sportive montréalaise avec une autre équipe de la métropole, mais cette fois-ci au hockey. Il y a un article très intéressant de la presse canadienne que j'ai lu dans la presse ce matin qui a vraiment retenu mon attention. C'est McCarron qui pourrait devenir le centre tant recherché chez le Canadien. Quand le club l'a réclamé en première ronde du repêchage de 2013, l'ailier de 6 pieds 5 et 230 livres avait la stature que l'organisation recherchait. Puis à sa première saison avec les Knights de London dans la Ligue junior, l'entraîneur Dale Hunter a essayé McCarron au centre. Il n'y avait pas beaucoup de place sur le flanc droit à ma première année dans la Ligue de l'Ontario et on m'a mis au centre, a rappelé McCarron. Je pense qu'à mon premier match, j'ai gagné mes 10 mises au jeu et l'entraîneur m'a dit « Tu ne vas pas retourner à l'aile, Big Mac ». C'est le surnom qu'on attribue à McCarron, vous l'auriez deviné. McCarron a alterné entre le centre et l'aile droite depuis, mais il s'est habitué à la position de centre et aux responsabilités qui viennent avec. Pendant le tournoi des recrues le week-end dernier à London, Sylvain Lefebvre, qui est entraîneur du club école du Canadien, n'aurait pu deviner que McCarron joue au centre que depuis quelques années seulement. « Il semble très à l'aise à mes yeux », a commenté Lefebvre, qui devrait diriger McCarron cette saison avec les Ice Caps de Saint-Jean dans la Ligue américaine. Tellement que je l'ai utilisé dans différentes situations, mise au jeu importante dans notre zone, désavantages numériques, etc. Pour moi, il se comporte comme un joueur de centre. » Fin de la citation. Le Canadien entend utiliser Alex Galchenyuk au centre cette saison, mais dans un avenir pas très lointain, l'équipe pourrait faire appel à un autre grand et solide joueur à cette position, surtout si elle choisit de ne pas retenir les services de Plekanec, qui deviendra joueur autonome sans compensation l'été prochain, on le sait. Le joueur de 20 ans soutient qu'il ne veut pas voir aussi loin, préférant se concentrer sur l'été productif qu'il vient de connaître et sur ce qu'il espère démontrer à sa première saison professionnelle. Il dit « Évidemment, je veux jouer dans la LNH. C'est mon objectif, je veux être prêt quand je vais faire le saut. C'est ma première année dans le hockey professionnel, nous verrons où tout cela me conduit. Je suis très excité et je suis bien préparé. » Mais Karen espère que sa polyvalence lui ouvrira un jour les portes de la LNH. Si l'expérience de Galchenyuk est concluante et que l'harceleur confirme son rôle au centre, McCarron redeviendra peut-être le robuste ailier droit qu'on recherchait quand il a été sélectionné au 25e rang en 2013. McCarron conclut en disant « Je jouerai là où ils ont besoin de moi. J'aime évoluer aux deux positions. Cela me donne une meilleure occasion d'obtenir un poste. » Et encore dans le Journal de Montréal, on fait le tour, on fait un résumé des jeunes vertes recrues du Canadien, celles qui ont fait bonne impression lors de ce camp qui s'est conclu. On vient de parler de McCarron, mais il y a aussi Zachary Fucalé et Michael McNiven qui ont retenu l'attention des chroniqueurs. Et parmi ceux qui n'ont fait que passer, bien, il y a les Québécois Simon Bourque et Daniel Audette qui ont été retranchés, de même que Jeremiah Addison et Dryden Hunt. Et parmi ceux qui devraient faire mieux, selon les chroniqueurs du Journal de Montréal, il y a Nikita Sherbak, Dalton Trower, Brett Lernott, Mac Bennett et Connor Crisp, tous des noms que je suis plus habitué de prononcer que ceux des joueurs de l'Impact qui me donnent beaucoup plus de problèmes alors que je réaccueille Clotilde Essay. En terminant, juste dire que Toronto ne présentera pas sa candidature pour les Jeux olympiques de 2024. C'était pratiquement devenu un secret de polichinelle, mais ça a été confirmé hier. Los Angeles, Budapest, Hambourg, Paris et Rome sont les 5 villes candidates pour accueillir les Jeux olympiques d'été en 2024.
Kevin, demain, merci. On vous retrouve toujours avec une chronique sportive.
Yes!
Alors, ben, passez une très belle fin de journée. Merci beaucoup.
Usé jusqu'à la corde. sens quand les paroles débordent, affronter l'évidence. Plus je reste, plus j'ai envie du reste. Avant qu'il soit trop tard, je laisse derrière ce que vous connaissez déjà.
Alright, on s'en va en région, mes amis. Il y a plein de, j'ai plein de choses à vous lire, entre autres dans la tribune. Alors oui, je commence par la tribune ce matin, parce qu'il y a quatre familles irakiennes qui... sont arrivés en Estrie hier après-midi. On sait le long voyage qu'ils viennent de connaître. Ils sont arrivés chez nous à Sherbrooke et Luc Larochelle en parle dans la tribune. Le 7 août 2014, une dépêche annonçait que les djihadistes de l'État islamique avaient provoqué l'exode de dizaines de milliers de personnes en s'emparant de Karakoch, la ville la plus grande ville chrétienne d'Irak. Pour nous, ce ne fut qu'une brève de l'actualité internationale, mais ce jour-là, par contre, Rafea, Noah, sa femme Lynn et leurs 6 enfants ont dû tout abandonner et prendre la fuite pour échapper à leur bourreau religieux. Les plus vieux savaient ce qui se passait, nous avons habillé les petits et nous sommes partis sans savoir où nous allions dormir la nuit suivante. De toute façon, nous ne pouvions pas hésiter longtemps, c'eût été trop risqué de rester, décrit le père arrivé avec les siens hier à Sherbrooke après un long voyage d'une douzaine d'heures depuis la Jordanie. Les plus vieux, Mavi, Mathieu et Myriam, avaient entre 9 et 13 ans lorsque cette rupture brutale s'est passée, mais à 2 ans, Larry, Lona et Mickaël, des triplés, tenaient à peine sur leurs pieds. Karakoch comptait 60 000 habitants et ils ont tous fui. Comme si Magog se vidait d'un coup sec et que tous ses habitants partaient pour Sherbrooke. Nous avons mis 8 heures à parcourir un trajet qui prend normalement une trentaine de minutes. Les autorités ont été prises de court à la frontière du Kurdistan. Les contrôles ont été interminables, raconte Rafea. C'était jour de retrouvailles hier, puisque le frère de Rafea vit à Sherbrooke depuis 2 ans. Arrivé, lui, de Grèce, après avoir quitté l'Irak durant la guerre ayant chassé Saddam Hussein du pouvoir, Mantaz Noah n'avait pas vu les siens depuis 7 ans. « Je suis content et rassuré de les savoir maintenant en sécurité », jubilait-il en partageant un premier repas avec eux. Le français de Mantaz est encore un peu hésitant, mais c'est une grande fierté pour lui d'avoir réussi à briser la barrière linguistique. « Ça va améliorer mes chances de trouver du travail. Je suis pour le moment sur un parcours de reconnaissance des acquis. Raffaea devra vraisemblablement emprunter le même chemin que moi. Nous sommes 5 frères et nous avions le même métier en Irak. Nous étions tous des poseurs de céramique, explique-t-il. Le Québec se veut bien accueillant, mais il est toujours aussi lent à reconnaître les compétences. Savio Abash, 33 ans, Rana Ozana, 30 ans, et leur petite puce de 3 ans, Surina, ont aussi quitté précipitamment leur maison lors de l'invasion de l'armée islamique. Notre seul espoir était de finir par trouver une place où vivre sans être menacés. Nous ne voulions pas que la petite soit exposée à l'horreur et à la violence, confie Savio. Fanar Georges Youssoufnous sert d'interprète durant les entrevues. Elle ne parlait pas un mot de français lorsque le destin l'a menée jusqu'ici, quelques jours de Noël, à quelques jours de Noël en décembre 2011. Et elle dit « Ça me rappelle encore notre arrivée. Le bonheur que j'ai éprouvé malgré la fatigue en me sentant enfin dans un milieu sécuritaire. Sherbrooke est un jardin merveilleux », m'a-t-elle lancé tout en se démenant pour offrir un accueil chaleureux à ses 21 compatriotes. L'église syriaque orthodoxe de Sherbrooke fait les choses simplement, mais combien efficacement. C'est elle qui prend une fois de plus à sa charge l'hébergement des nouveaux arrivants et tout le nécessaire pour assurer leur subsistance. Quand on rédige de la paperasse, il n'y a que des noms sur des formulaires. Mais quand on voit les sourires et les visages s'illuminer, ça donne un sens encore plus grand à vos valeurs de solidarité, rayonnait l'un des parrains de ces gens arrivés hier, Georges Mourani. Comment donc, conclut Luc La Rochelle. La caricature ce matin dans la tribune nous présente caricature d'Hervé Philippe où l'on voit Jean Chrétien en train de pousser un landau et dans le landau il y a bébé Trudeau qui dit « Votre expérience me servira de guide, monsieur Chrétien ». On n'a pas fait vraiment dans du Philippe Glass hier soir au nouveau stade. Excusez-moi, ils ont d'abord fermé le Colisée. Oui, ok, c'est parce qu'il y a le groupe Metallica qui a fermé le Colisée. Et c'est normal que je confusionne parce que demain, ils vont ouvrir le nouveau centre Vidéotron. Il y a tout un dialogue avec le batteur Lars Ulrich, qui dit que ce Colisée-là, c'est un lieu chargé d'histoire. Et il dit pas seulement pour vous, mais pour nous aussi. Et ça a été une fin émouvante aussi pour les travailleurs. Écoutez, ça fait 3 pages ce matin dans le Soleil. Geneviève Bouchard qui écrit « On ne sait pas encore ce qu'il adviendra du vieux Colisée, mais si Québec avait choisi la destruction par le feu, elle n'aurait pas manqué grand-chose pour être exaucée hier par Metallica. Les rois du métal et les indéniables chouchous locaux ont mis fin en bonne et due forme à la vie active du bâtiment. Des adieux aussi décoiffants qu'enflammés devant une foule en liesse. Que demander de mieux pour l'oraison funèbre du vénérable Arena ?» On voit ensuite des photos de la foule et des gens absolument ravis, des fans surtout. Et il y a donc une entrevue avec le batteur. Comment vous vous sentez, lui a-t-on demandé, avant d'offrir le dernier concert au Colisée ? Et il répond « Je sais que vous êtes excité, mais nous sommes honorés. J'ai fait mes devoirs. Je sais que le bâtiment a été bâti en 49. On a joué ici souvent. On a fait un DVD ici. C'est un lieu chargé d'histoire, pour nous comme pour vous. Vous évoquez le DVD Québec magnétique. Pourquoi aviez-vous choisi le Colisée pour immortaliser cette tournée ?» Réponse « On était venu à Montréal un mois avant. » Ça nous a rappelé à quel point les fans québécois sont fous et passionnés. On s'est dit que si on sortait un DVD pour documenter la tournée, il fallait que ce soit dans cette partie du monde. Et ce bâtiment, le Colisée, a une ambiance spéciale. Il est un peu plus petit, le toit est plus bas, l'énergie ici est concentrée. Et il y a une énergie rock'n'roll fantastique. Ce n'est pas aussi poli, propre ou frais que ce qu'on peut voir ailleurs. Il y a une espèce de saleté rock'n'roll dans les fondations de ce bâtiment. Et puis, que pensez-vous, leur a-t-on demandé, donc a-t-on demandé à ce batteur, au batteur de Metallica, que pensez-vous du nouveau bâtiment ? Vous allez le mettre à l'épreuve ? Il répond, on dirait qu'il arrive directement de l'espace. On va faire de notre mieux pour le salir un peu et on souhaite qu'il y ait bientôt une équipe de la LNH dedans. Alors, qu'en est-il du prochain album? Il dit, ça va, mais là, on a un show au Brésil en fin de semaine. On était aussi chez vous. Alors, la personne qui questionne dit, bref, c'est notre faute si l'album n'est pas prêt. Et le batteur de Metallica qui répond, ben oui, exactement, il y a trop de belles offres. Laissez-nous travailler. C'est dans le Soleil que j'ai aussi trouvé cette nouvelle ce matin sous la plume d'Annie Morin qui dit que le ministère de l'Éducation débloque 4, bon, disons presque 5 millions de dollars pour transformer l'école des Grandes Marées à Cap-Rouge afin d'accueillir la centaine d'élèves handicapés fréquentant l'école Madeleine Bergeron située sur la route de l'église à Sainte-Foy. Pour le ministre libéral Sam Ahmad, c'est la preuve que le gouvernement est à la bonne place. Plus d'argent pour les élèves et moins dans l'administration. L'école des Grandes Marées a été fermée en 2012. Cela avait causé un petit remous à l'époque, malgré la promesse de conserver la vocation publique des lieux, a concédé hier le président de la commission scolaire des Découvreurs. Alain Fortier était donc très heureux d'annoncer la mise aux normes du bâtiment pour accommoder une nouvelle clientèle avec des besoins particuliers. L'école Madeleine Bergeron accueille des enfants de 4 à 21 ans, profitant de tout l'Est du Québec, de tout l'Est du Québec, qui présente des déficiences motrices associées à une déficience intellectuelle variant de moyenne à profonde. Une centaine d'employés sont nécessaires pour s'occuper d'autant d'enfants. Alors, ces 5 millions de dollars financés par Québec permettront notamment d'installer des ponts roulants pour transporter les enfants, d'amener l'eau dans chaque classe, d'agrandir les portes pour laisser passer les fauteuils roulants. Et la configuration de l'édifice permettra d'aménager une aile pour le primaire et l'autre pour le secondaire. C'est vraiment une excellente nouvelle que celle-ci, juste en dessous. Je reviens sur l'affaire Labaume-Gravel. Monsieur Labaume qui juge que l'animateur Alain Gravel est déphasé. Vous savez qu'hier, il a refusé quasiment de répondre à toutes les questions. Et monsieur Labaume qui estime qu'il a posé des questions d'il y a 5 ans sur le dossier de l'amphithéâtre lors de cette entrevue au ton particulièrement acerbe. Le maire de Québec accuse aussi le nouveau Morning Man montréalais d'avoir eu le désir de repartir une petite guerre Québec-Montréal. Pendant 9 minutes, M. Labaume refuse souvent de répondre ou répond sèchement à des questions de M. Gravel portant sur le centre Vidéotron, le retour des Nordiques, la présence de Pierre-Carl Péladeau à la mise au jeu officielle du match des Remparts samedi soir et les récents propos de Guy Lepage sur les gens de Québec ou encore une éventuelle candidature olympique. Ça ne m'intéresse pas de parler de ça, a martelé le maire de Québec à la grande majorité des questions de l'ancien animateur d'enquête à la télévision d'État. Vous êtes achalant à matin, a même lancé M. Labaume alors que M. Gravel alignait les questions. La caricature dans Le Droit ce matin nous présente Justin Trudeau qui tient la main de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui. Et en dessous, ça s'appelle « Parents secours ». Donc, en fait, c'est une parodie de l'affiche « Parents secours ». Puis sauf qu'en haut, on ne voit pas la tête de Jean Chrétien, mais on sait que c'est lui. Mais on voit juste écrit « Que voulez-vous ?» Et puis j'ai envie dans Le Droit de vous parler de l'escouade anti-gaspillage alimentaire au travail avec l'été qui s'achève, l'heure des récoltes tire à sa fin dans les champs de la région. Pour une deuxième année consécutive, l'escouade anti-gaspillage alimentaire de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais sillonne les terres de producteurs locaux afin de recueillir les fruits et légumes excédentaires qui seraient autrement jetés à la fin de la saison. Créée au printemps 2014 afin de contrer l'insécurité alimentaire, alimentaire en Outaouais, l'escouade anti-gaspillage alimentaire avec son équipe de bénévoles était du côté du verger Croque-Pomme hier à Turceau dans le cadre d'une opération de glanage de pommes. Demain, ce sera au tour de la ferme Pays-Vert à Quillon dans le Pontiac d'accueillir les bénévoles qui viendront ramasser des haricots sur place et plusieurs autres activités du genre sont prévues ces prochaines semaines. Les fruits et légumes ainsi glanés sont recueillis par Moisson Outaouais, qui redistribue ensuite le tout dans des banques alimentaires de la région. Dans le cas des pommes cueillies hier, elles serviront à la transformation et seront apprêtées dans des cuisines collectives. En 2014, l'escouade a réussi à récupérer 7 tonnes de fruits et de légumes qui auraient autrement été jetés ou laissés au sol par les 5 producteurs participants. Plus d'une tonne supplémentaire d'aliments a également été récupérée à travers des marchés publics de la région. 5 producteurs maraîchers ont encore confirmé leur participation au projet cette année. Madame Macamo soutient que d'autres propriétaires de potagers, vergers, serres et fermes devraient se joindre au mouvement d'ici les prochaines semaines, alors que la saison de glanage ne fait que commencer. Par ailleurs, l'escouade mettra bientôt à la disposition du public des réfrigérateurs anti-gaspillage. Le projet pilote qui doit être lancé le 21 septembre permettra l'aménagement de frigos partage à l'extérieur de la Mie de l'Entraide dans le secteur Buckingham, ainsi qu'à la Manne de Lille et au dépanneur Sylvestre dans le secteur de Hall. Autrement dit, si vous avez des choses, plutôt que de les jeter, allez les mettre dans ces frigos-là. Alors, qu'est-ce qui s'écrit dans les pages culturelles de nos journaux? On regarde ça tout de suite. Dans le Devoir d'abord, dans le domaine de l'édition, une subvention non sollicitée pour un congrès non désiré. Figurez-vous, et c'est Catherine Lalonde et Philippe Orfali qui nous racontent cela, que le gouvernement Harper continue de réserver des surprises au milieu de l'édition après avoir catégoriquement refusé d'occuper la présidence d'honneur de la Foire du Livre de Francfort en 2017. Eh bien, Ottawa a imposé une subvention de 75 000 $ à l'un des principaux organismes de l'industrie, a appris le Devoir, un appui financier dont celle-ci n'a jamais exprimé le souhait. C'est cela qui est drôle. Alors que les besoins en édition sont criants, le Fonds du Livre du Canada, le FLC du ministère du Patrimoine canadien, a octroyé à Livre Canada Books une subvention non sollicitée de 74 750 $ plus précisément. C'est cet argent-là qui devrait servir à organiser un symposium sur l'exportation du livre en janvier 2016, et ce même si plusieurs éditeurs doutent de la pertinence et des retombées d'une telle rencontre. Parlons livre encore, c'est une étude canadienne où l'on nous dit que pendant que les éditeurs francophones du pays maintiennent leur bonne posture sur la scène internationale et au Canada, le milieu de l'édition de langue anglaise vit l'une des pires crises de son histoire. Et c'est ce que révèle une étude interne de l'industrie dont le Devoir a obtenu copie. La dernière décennie a été sombre pour le livre canadien-anglais. Les éditeurs de L'autre solitude ont vu leurs revenus totaux passer de 150 millions en 2005 à un peu moins de 85 en 2014. Et c'est une chute de 43%, démontre cette étude commandée conjointement par l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, et Livre Canada Books, connue autrefois sous le nom de l'Association pour l'exportation du livre canadien. Évidemment, ces données étonnent un peu la professeure de marketing de HEC Montréal, Joanne Brunet, qui se spécialise dans l'industrie culturelle. Deux choses peuvent expliquer la situation des éditeurs anglophones. La concurrence est beaucoup plus forte chez les anglophones en raison des États-Unis. Il faut aussi se demander si le livre canadien-anglais jouit d'autant d'aide financière que le livre québécois. L'environnement est très différent et apparemment la concurrence est beaucoup plus féroce en anglais qu'en français. «
le TIFF bat son plein à Toronto, le festival du film. Et Johnny Depp fait tourner bien des têtes, nous dit Odile Tremblay. Bon, la rue près du Bell Lightbox était bloquée lundi. Des photographes n'en avaient que pour Johnny Depp. Une foule hystérique ressemblait aux gouttes amalgamées d'une mare devant l'idole. Les badauds trouveraient Depp sans doute trop enlaidie dans le Black Mass de Chris Cooper qui nous vaut sa venue. Les traits tirés, masqués du haut pour créer la semi-calvitie. Et pourtant, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti des rôles de composition gentillet pour endosser un personnage de chair et d'os. Alors le voici concentré, sans âme, d'une force de frappe qu'on ne lui connaissait plus, à Johnny Depp, et d'entrer dans la peau de James Whitey Bulger, le chef de la mafia irlandaise à Boston au cours des années 80, doublé d'un indicateur du FBI. Le cinéaste Chris Cooper l'admettait, il est difficile de marcher sur les pas de Scorsese et de Coppola. C'est moins fort que les parrains et les Godfellas de ses aînés tout de même. Depp déclare s'être senti investi d'une responsabilité en endossant un personnage qui a bel et bien existé en tentant de comprendre. Personne ne se brosse les dents devant le miroir en se disant « je suis un démon ». Il a tenté de communiquer avec son modèle qui croupit en prison, mais l'octogénaire déclina l'invitation. La star qui s'était beaucoup documentée est fière d'elle. Si tu as l'impression d'avoir rendu service au cinéaste, à toi-même, à l'auteur, j'appelle ça un succès. Le box-office, oh, ça c'est complètement autre chose, a-t-il déclaré. Elle poursuit, Madame Tremblay, en disant qu'elle quitte Toronto, mais que deux films québécois déjà projetés au Festival de Locarno auront droit à leur sortie nord-américaine cette semaine au TIFF. On y reviendra plus longuement, dit-elle, à l'heure des sorties, mais quelques mots quand même pour saluer le très émouvant « Les êtres chers » d'Anne Aymon, la cinéaste de Nuit numéro 1. Variation poignante et mélancolique sur la famille, la dépression congénitale, le suicide d'un père, joué par Maxime Godette, et les répercussions sur sa fille, Karel Tremblay. Ce sujet sombre offre un hymne à la vie, dit-elle. Et puis, Gibor s'en va en guerre, de Philippe Falardeau, qui n'a ni l'impact ni la profondeur de ses Monsieur Lazare et Congorama, mais cette satire politique rebondissante révèle des zones d'ombre chez Patrick Huard, en député de région, éloignés, aux prises avec des décisions cruciales dans un environnement explosif. Oui, on rit, mais le film surfe sans plonger sur plusieurs sujets intéressants, dont les droits autochtones. Parlant d'Autochtones, c'est vraiment très très nul ce qui se passe avec Natacha Saint-Pierre. En tout début de cette émission, vous n'étiez sans doute pas à l'écoute. Je vous imagine mal écouter ça pendant trois heures de suite comme ça ainsi. Mais Christiane Campagna nous a parlé de cette vidéo et de Natacha Saint-Pierre accusée de propager des clichés. La chanteuse Natacha Saint-Pierre qui sortira le mois prochain un nouvel album intitulé Mon Acadie. Elle est vraiment critiquée ces jours-ci par de nombreux Acadiens qui l'accusent de propager des clichés sur leur culture. Dans son plus récent vidéoclip « Tous les Acadiens », c'est une chanson ça, qui avait été popularisée il y a fort longtemps par Michel Fugain, qui présente une Natacha Saint-Pierre rayonnante qui pagaille en canot, qui porte des chapeaux de plumes autochtones et marche dans une forêt où sont accrochés des capteurs de rêves. Non mais effectivement, c'est quand même assez lamentable.
De la Louisiane et dans un coin du Canada, des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Et quand ils font de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudeau. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les colons. Sont américains et sont américaines, la faute à qui donne, la faute à Napoléon.
Oui, la chanson ça va, mais enfin quand même, déjà la chanson véhiculée par
mal d'idées, en tout cas. Complètement. Bref. Bon, alors voilà, on va laisser les plumes et Natacha Saint-Pierre en France. On revient ici chez nous et apparemment, on va découvrir une vraie graine de star, un petit garçon qui a 8 ans, qui s'appelle Jacob Tremblay. Et dans le film Room, Nathalie Petrovski nous en parle. C'est lui le centre d'attention. Elle écrit, elle va loin, passez le beau, une star vient de naître et risque fort probablement de se retrouver avec une nomination aux Oscars. Il a 8 ans, il s'appelle Jacob Tremblay et même s'il partage l'écran avec l'actrice Brie Larson dans le film Room, c'est lui le centre d'attention, lui qu'on regarde, auquel on s'attache et qu'on voudrait adopter tant il est naturel, touchant et toujours juste, irréprochablement juste. Alors dans ce film fort et poignant, écrit Nathalie Petrovski, qui a eu sa première mondiale à Telluride et a immédiatement généré un buzz, ce petit Jacob incarne Jack, qui est un gamin de 5 ans, avec des cheveux jusqu'aux fesses, comme le René Charles d'antan. Il est né dans la cabane de jardin où sa mère est tenue captive depuis 7 ans. Et comme il n'a rien connu d'autre que ce lieu sale, sombre et exigu où il vit en symbiose avec sa mère, Jack y est parfaitement heureux. Il est convaincu que le monde se limite aux quatre murs de cette pièce. Ça, c'est l'histoire et c'est tiré du roman à succès de l'écrivaine irlandaise Emma Donoghue. Et la réalisation est de Lenny Abrahamson, un réalisateur irlandais qui signe ici avec brio son 5e film. Sans révéler la suite, disons que ce film qui portait sur la captivité se mue en une extraordinaire et puissante métaphore sur l'attachement maternel, aussi bien l'attachement de la mère pour son enfant que celui de l'enfant pour sa mère. Même une fois dehors, dans le monde tout nouveau qu'il découvre, Jack s'ennuie de cette pièce qui était en quelque sorte le prolongement du ventre de sa mère et auquel il devra un jour renoncer. « Je n'en dis pas plus », dit Madame Petrovski. « Notez bien le titre. » Room comme pièce, chambre, et dites-vous que ce n'est pas la dernière fois que vous entendez parler de ce superbe film. Et puis l'ami Marc Cassivi revient sur la déclaration de Guilla. Vous savez qui a dit qu'effectivement à Québec, si RBO vendait pas beaucoup de billets, c'est parce que là-bas, ce qu'ils voulaient, c'était les gros bras, c'était le Metallica, c'était en tout cas bon. Alors évidemment, à Québec, ça n'a pas plu et Cassivi qui dit honnêtement, j'ai trouvé que c'était un peu déplacé de sa part, mettons que ce n'était ni lieu ni le moment. Mais enfin. Quand même, dit-il. Cassivi qui dit « Je me doutais bien que le commentaire de Guilla susciterait des réactions, mais j'étais loin de me douter qu'il deviendrait une nouvelle digne d'intérêt dans l'ensemble des médias du Québec. Certains pays vivent des conflits armés, accueillent des réfugiés et subissent des catastrophes naturelles dans notre société monstrueusement en paix. Merci Ouajdi, écrit Cassivi. On a les controverses qu'on peu. S'agissant des préférences du public de Québec, Guilla Lepage a rétro-pédalé un peu en entrevue à Deux Hommes en Or vendredi à Télé-Québec avec le camarade Lagacé. À bien y repenser, il a précisé qu'il se vendait autant de billets de RBO au prorata à Québec, 800 000 personnes qu'à Montréal, mais le mal était déjà fait. Une organisatrice libérale de Québec avait eu le temps de traiter l'animateur de Tout le monde en parle d'hostie d'épée sur Twitter. Édifiant. Non, Guilla Lepage, je le répète, dit Cassivi, n'a pas fait preuve de la plus grande délicatesse. Il reste qu'il n'avait pas tort. Et puis, j'en parlais au tout début de cette émission, les voies de service. Et pour cause, ça fait la une du Devoir ce matin. Ce manifeste pour un Canada fondé sur le souci de la planète et la sollicitude des uns et des autres, des uns pour les autres. C'est un texte collectif qui sera lancé ce mardi en marge du Festival international du film de Toronto. Alors tous ces gens, je vous rappelle qu'il y a Neil Young, Leonard Cohen, Naomi Klein, enfin bon, énormément de gens signent ce papier. Ils disent « Nous partons du constat que le Canada et le Québec traversent aujourd'hui la crise la plus grave de leur histoire récente. La Commission de vérité et de réconciliation a permis de prendre acte d'épisodes révoltants de notre passé proche. La pauvreté et les inégalités qui s'accentuent creusent une cicatrice qui défigure notre présent. Et la performance canadienne dans le dossier des changements climatiques est un véritable crime contre l'humanité à venir. Ces faits sont d'autant plus alarmants qu'ils contreviennent à nos valeurs déclarées, respect des droits des autochtones, internationalisme, droits de la personne, diversité et développement durable. Aujourd'hui, nous ne vivons pas en accord avec ces valeurs, mais nous pourrions le faire. Nous pourrions vivre dans un pays entièrement alimenté par des énergies réellement renouvelables et justes, traversé de réseaux de transport public accessibles, où les emplois et autres possibilités qu'offre une telle transition sont aussi conçus pour éliminer systématiquement les inégalités raciales et entre les genres. Prendre soin de la planète et les uns des autres pourrait créer de nouveaux secteurs économiques très dynamiques. Beaucoup plus de personnes auraient accès à des emplois mieux payés et travailleraient moins longtemps, ce qui nous laisserait amplement le temps de profiter de la présence de nos proches et de nous épanouir dans nos communautés. Alors nous devons bondir vers l'avant, dit ce collectif. Ce bond doit commencer par respecter les droits ancestraux et le titre des premiers gardiens de cette terre. Les communautés autochtones ont été aux premières lignes de la défense des cours d'eau, des berges, des forêts et des terres contre l'activité industrielle débridée. Nous pouvons appuyer celles et ceux qui remplissent ce rôle et relancer nos relations avec les populations autochtones en mettant pleinement en application la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Inspirée par les traités qui constituent la base juridique de ce pays et nous enjoignent de partager la terre aussi longtemps que le soleil brillera, que l'herbe poussera et que l'eau coulera, nous exigeons des sources d'énergie qui ne s'épuiseront jamais, pas plus qu'elles n'empoisonneront la terre. Nous exigeons que ce changement commence maintenant. Plus rien ne peut justifier la construction de nouveaux projets d'infrastructures qui nous forcent à continuer d'accélérer le rythme d'extraction des ressources dans les décennies à venir. Le temps de la démocratie énergétique est venu. Nous croyons non seulement qu'il faut de nouvelles sources d'énergie, mais aussi que les communautés devraient, lorsque c'est possible, contrôler collectivement ces nouveaux systèmes de production d'énergie. Pour remplacer les structures de propriété qui servent le profit des entreprises privées et la distante bureaucratie de certains États centralisés, nous pouvons en créer de nouvelles, innovantes, gouvernées démocratiquement, qui fourniraient des salaires suffisants et permettraient de garder dans les communautés des revenus dont celles-ci ont grand besoin. En plus d'éclairer nos demeures, l'énergie, dit ce collectif, ainsi produite, redistribuera la richesse, consolidera la démocratie, renforcera notre économie et commencera à guérir les blessures qui datent de la fondation de ce pays. Le passage à un système agricole beaucoup plus local et axé sur des impératifs écologiques réduirait notre dépendance aux carburants fossiles, favoriserait la capture du carbone dans le sol et aiderait à traverser les moments difficiles dans l'approvisionnement mondial, en plus de produire une nourriture plus saine et abordable pour tout le monde. La transition vers une économie qui tient compte des limites de notre terre requiert aussi de développer les secteurs de notre économie qui consomment peu de carbone, ceux des soins, de l'éducation, du travail social, des arts et des services de communication d'intérêt public. Nous déclarons que l'austérité qui s'en prend systématiquement aux secteurs consommant peu de carbone, comme l'éducation et la santé, tout en affamant les transports publics et en imposant de dangereuses privatisations dans le secteur énergétique, est une forme de pensée fossile qui menace la vie sur Terre. Alors, nous invitons toutes celles et tous ceux qui se présentent aux prochaines élections à saisir cette occasion et à agir en fonction de cet urgent besoin d'une transformation. C'est notre devoir sacré à l'égard des populations que ce pays a blessées par le passé, à l'égard de celles et ceux qui souffrent inutilement à présent, et à l'égard de tous ceux qui ont droit à un avenir radieux et sûr. Le temps est venu d'être courageux, le temps est venu de bondir de l'avant. Ont écrit et co-signé Leonard Cohen, Charles Taylor, Donald Sutherland, Ian Martel, mais aussi des dizaines de personnalités de tous les horizons. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de vous la lire, cette lettre, dans son intégralité, mais je pense vous avoir lu les moments les plus essentiels. Merci beaucoup Mathieu Tessier et re-bienvenue à notre ami Christiane Campagna qui va vous présenter dans quelques secondes le bulletin du handicap. Moi je m'éclipse, bonne journée, à demain 10h.
Bonjour, je suis Gérald Cousineau, auteur biographe au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagnan et voici vos manchettes en ce mardi 15 septembre. Un CPE expulse un enfant autiste à cause des coupes. Une nouvelle vie pour l'école des Grandes Marées de Sainte-Foy. Le RAM propose un service d'accompagnement pendant les travaux du métro Laurier. Métro de Sofia, pas aussi accessible qu'on le dit. Et course para, Shane Dobson sera des mondiaux au Qatar. Un enfant autiste a été expulsé d'un CPE de l'Abitibi en raison des coupes budgétaires, ce qui a obligé sa mère à abandonner son emploi à plein temps et à ne pas postuler en vue d'une promotion, nous relatait le Journal de Montréal ce week-end. La mère de l'enfant de 3 ans et demi s'indigne de devoir mettre son travail de côté à cause de coupes budgétaires du gouvernement. « Je ne suis pas très carriériste. Mon enfant passe en premier. Mais je ne peux pas croire qu'au Québec, on oblige les gens à cesser de travailler et à rater une occasion d'avoir un meilleur salaire parce que leur enfant est différent. » Je veux juste dire au gouvernement qu'il se prive des impôts que j'aurais payés si j'étais restée au travail. Le CPE Jardin de Pierrot de Rouyn-Noranda affirme n'avoir eu d'autre choix que d'expulser l'enfant la semaine dernière. Le bambin fréquentait le CPE depuis juillet dans un groupe normal. Quand le diagnostic d'autisme a été confirmé, la semaine dernière, le CPE a choisi de rompre le contrat comme c'est son droit. Cet enfant aurait exigé une éducatrice à lui tout seul. Il existe des programmes d'aide du gouvernement, mais ils sont insuffisants. Et nous n'aurions pas eu l'argent immédiatement. Nous n'avons plus de liquidité pour lui offrir le service, a dit Julie Cloutier, présidente du CPE. Le Jardin de Pierrot a reçu 65 000 $ de moins en subvention depuis un an et estime que le manque à gagner sera de 80 000 $ pour l'année à venir. Le ministère de l'Éducation débloque 4,75 millions pour transformer l'école des Grandes Marées à Cap-Rouge afin d'accueillir la centaine d'élèves handicapés fréquentant l'école Madeleine-Bergeron, située sur la route de l'église à Sainte-Foy. L'école des Grandes Marées a été fermée en 2012. Cela avait causé un petit remous à l'époque, malgré la promesse de conserver la vocation publique des lieux, a concédé lundi le président de la commission scolaire des Découvreurs, au Soleil. Alain Fortier était donc très heureux d'annoncer la mise aux normes du bâtiment pour accommoder une nouvelle clientèle avec des besoins particuliers. L'école Madeleine-Bergeron accueille des enfants de 4 à 21 ans provenant de tout l'Est du Québec qui présentent des déficiences motrices associées à une déficience intellectuelle variant de moyenne à profonde. Une centaine d'employés sont nécessaires pour s'occuper d'autant d'enfants. Les 4,75 millions de dollars financés par Québec permettront notamment d'installer des ponts roulants pour transporter les enfants, d'amener l'eau dans chaque salle de classe et d'agrandir les portes pour laisser passer les fauteuils roulants. La configuration de l'édifice permettra d'aménager une aile pour le primaire et l'autre pour le secondaire. Depuis plusieurs semaines, la Ville de Montréal effectue des travaux de reconstruction des conduites d'égouts, d'aqueducs et d'infrastructures routières sur le boulevard Saint-Joseph, entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert. Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'au mois de novembre 2015, compliquent les déplacements dans cette portion du boulevard Saint-Joseph. De plus, la Société de transport de Montréal effectue la réfection de l'édicule Laurier de la station du même nom, ce qui entraîne sa fermeture durant toute la durée des travaux et oblige la clientèle à transiter par l'édicule Saint-Joseph. Ainsi, par mesure de sécurité, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain invite ses membres, qui descendent à la station de métro Laurier pour venir à ses activités, à les contacter au 514-277-4401 au poste 101. Une personne ira vous chercher en haut des escaliers à l'édicule Saint-Joseph de la station Laurier pour vous guider de façon sécuritaire à travers les dédales des travaux jusqu'aux locaux du RAM. Prenez note que ce service d'accompagnement est offert uniquement dans le cadre des activités du RAM. En mai dernier, la capitale du pays le plus pauvre de l'Union européenne, la Bulgarie, recevait un trophée du Conseil de l'Europe pour son métro 100% accessible à tous. De quoi faire rêver. Sauf que, sur place, les militants des droits des personnes handicapées crient au scandale. Un après-midi doux dans le centre de Sofia, Bulgarie, Peter Kishaski, 26 ans, dirige son fauteuil électrique dans l'ascenseur qui descend du boulevard aux entrailles de la station de métro Serdika, une des plus fréquentées de la capitale. Une fois son ticket acheté, il passe sans encombre le large portique spécialement conçu pour les poussettes et les fauteuils roulants. Puis il emprunte un autre ascenseur qui l'amène sur un quai spacieux et lumineux. Mais une fois le métro arrivé, impossible d'y monter. Le sol du train est beaucoup trop haut et trop éloigné du quai, soupire-t-il. Ici, les personnes en fauteuil roulant peuvent descendre jusqu'au quai, mais ne peuvent pas entrer dans les wagons. Pourtant, le 19 mai dernier à Paris, le Conseil de l'Europe a distingué le métro de Sofia pour son accessibilité par tous les citoyens et usagers sans aucune distinction ou discrimination. Mais de leur côté, les militants des droits des personnes handicapées crient au scandale. C'est complètement faux. Le métro de Sofia n'est pas accessible et c'est absolument ridicule qu'il ait reçu ce trophée. Pour beaucoup de stations en surface, il n'y a pas d'ascenseur de chaque côté de la rue ou bien elles ne marchent pas. Seules les portions de lignes les plus récentes sont aux normes. S'insurge Kapka Panetova, directrice exécutive du Center for Independent Living, une association de défense des droits des personnes handicapées dans la capitale. J'aimerais qu'on m'explique les critères d'attribution du trophée, ajoute Milena Velkovska, jeune femme de 35 ans, atteinte d'une paralysie cérébrale, lui rendant la marche difficile. Peter Kikashki, lui, est catégorique. Si quelqu'un doit m'aider pour me faire monter dans le wagon, on ne peut pas parler d'accessibilité. Il en est d'ailleurs persuadé. Le Conseil de l'Europe n'a pas dû se déplacer pour venir visiter le métro et a dû choisir sur dossier. On met ce qu'on veut dans le dossier. Quelqu'un a dû mentir à la municipalité. Pour lui, le Conseil a une responsabilité morale. Quand elle donne un prix, même symbolique, ce devrait être pour quelque chose de bien. C'est officiel. Shane Dobson représentera le Canada aux championnats mondiaux handisport de l'IPC, l'International Paralympic Committee, qui seront présentés du 21 au 31 octobre à Doha, au Qatar. Une bonne nouvelle pour celui qui vient mettre un baume sur la blessure à l'orgueil dont il a été victime après avoir été écarté de l'équipe canadienne pour les Jeux parapanaméricains qui ont eu lieu le mois dernier à Toronto. Cela dit, Shane Dobson ne veut pas faire un plat de toute cette histoire qu'il préfère laisser derrière lui. À Doha, Dobson prendra part au 1500 M T37, épreuve où il occupe en ce moment le troisième échelon mondial. Seuls l'Australien Brad Scott et le Français d'origine algérienne Majid Djemal ont fait mieux que lui en 2015. « Mon objectif n'est pas de battre un record, mais d'aller chercher un podium », affirme-t-il. « Je me sens actuellement au sommet de ma condition physique. Je progresse bien. Je sais aussi qu'un podium m'assurerait une place aux Jeux paralympiques de Rio l'an prochain. » Cela dit, il va faire une température d'environ 40 degrés Celsius à Doha le jour de la course. J'ai déjà couru dans des chaleurs extrêmes comme celle-là, sauf que cette fois-ci sera différente. Il y aura aussi un décalage de 6 heures. C'est d'ailleurs pourquoi je serai là une semaine plus tôt, afin de prendre part à un camp d'entraînement à Dubaï, explique-t-il. Le directeur d'athlétisme Nouveau-Brunswick, Gabriel Leblanc, est on ne peut plus heureux pour le jeune athlète de 23 ans. La course a beau être un sport individuel, ça te prend une bonne équipe pour te permettre de t'améliorer, souligne Dobson. Moi, j'ai la chance d'avoir de bons entraîneurs, de bons compagnons pour m'entraîner et de bons amis qui sont là pour m'appuyer. Mon père Keith, ma mère Muriel et mon frère Troy, qui fait partie du club de course UNB, m'encouragent aussi beaucoup. Alors voilà, c'était Christiane Capagna avec votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Bonne journée tout le monde.